C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libre la nation.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faut être groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Groupir!
Alors, va.
Et Toc, remonte ton slibard, Lothar.
Mais sire!
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com si vous nous écoutez sur les internets. Et c'est l'heure de la percée de l'histoire. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, je serai avec Simon. Bonsoir Simon.
Bonsoir Thomas, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Bah ça va excellemment bien, en ce jour bien beau, comme on a pu le voir sur le Mans, hein, et pas du tout de pluie.
Non, c'est aucune, faux. Aucune.
J'ai clairement menti.
C'est super sympa, en tout cas, on s'amuse. Et c'est vrai que, voilà, sache que l'affiche de cette émission sur les postes radio, c'est « Mais quand cessera la pluie ?»
Quand cessera la pluie, c'est
parce
la question.
Parce que c'est une excellente
question. Le printemps, on l'attend toujours, hein, ça fait un peu... Ah, il n'y a plus de saison, mais franchement, cette année, plus rien comprend. Un coup, il y a du soleil, un coup, il y a de la pluie, un coup... Bon, bref, c'est un peu étrange comme temps, mais bon.
Mais peu importe le temps, nous sommes là, nous sommes présents. Oui. Nous n'étions pas là la semaine dernière. Si vous avez suivi les réseaux de la Percée de l'Histoire sur Facebook ou sur Insta, vous avez su à l'avance que nous étions en direct d'un match... ô combien important, organisé à l'université, un match de basket, figurez-vous, entre le BDE d'histoire et le BDE de géographie. Alors, sachez que ce n'était pas une première, puisque c'était la revanche par rapport à l'année dernière. L'année dernière, le match s'était passé en mars, il me semble, et c'était le 8 mars, pour être précis. Et cette année, les historiens ont pris leur revanche parce que malheureusement, ils avaient été défaits.
Ah oh oui.
Et ils l'ont pris en beauté. Voilà, je vous spoil, mais...
Ça a été un sacré match.
Voilà. Ouais.
Bah, d'ailleurs, une rediffusion, je crois, qui est disponible...
Bientôt, oui. Bah, de toute façon...
Ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux, donc allez voir sur l'AEH notamment.
Oui, de toute manière, on balancera le lien, nous aussi. Hein. Mm. On l'a reçu, alors on le balancera après cette émission. En attendant, comme d'habitude, hein, vous êtes... j'ai envie de dire, habitué par les rituels de l'émission, en commençant par le journal historique, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ce 21 mai dans l'histoire? Et c'est moi qui vais le faire pour les événements. Alors, pour commencer, le 21 mai 1358...
Il y a des choses, hein. Il y en a beaucoup,
Oui. Tu fais bien de le dire. Donc, je vais, prendre les plus fameux, notamment... La Grande Jacquerie du 21 mai 1358 commence l'une des plus grandes jacqueries de France. Une centaine de paysans de Beauvaisis, du Beauvaisis plutôt, se réunissent en bande et s'en prennent violemment aux maisons de gentilshommes et aux châteaux de la région, tuant les habitants et brûlant les demeures. Le 21 mai 1420, je spoil un peu la chronique de tout à l'heure, la France... est contrainte de signer le traité de Troyes et consacre le triomphe non négligeable de la couronne d'Angleterre sur la couronne de France, mais plus de détails après la pub musicale tout à l'heure. Le 21 mai 1536, Genève passe à la réforme. Le Conseil des 200 se prononce en faveur de la réformation religieuse sous l'inspiration du prédicateur Jean Calvin. L'auteur de l'institution de la religion chrétienne a été appelé à Genève par Guillaume Farel. La petite république urbaine va dès lors devenir le siège européen du calvinisme, la forme la plus rigoureuse du protestantisme. Le 21 mai 1904, nous avons la naissance de la FIFA, figurez-vous,
eh, oui.
à Paris, et créée la Fédération Internationale de Football, Association, ou FIFA. Ce qui finalement ne veut rien dire.
Parce que c'est vrai que Fédération Internationale de Football Association.
Oui, 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 faut peut-être le dire.
Ou association, je ne sais même pas. Non, non,
je ne sais pas. Je sais pas comment vous le dire, mais enfin bref,
en tout cas,
c'est la FIFA. A été créée à l'instigation du journaliste et arbitre Robert Guérin. Alors, en opposition au Comité international olympique qui prônait l'amateurisme, elle se donne, la FIFA, se donne pour objectif de professionnaliser le football afin de permettre aux classes populaires d'y participer. Cette fédération nationale européenne la porte sur les fonts baptismaux. L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Suède et la Suisse. Un absent de taille, et non des moindres, le Royaume-Uni, berceau finalement, on pourrait dire, berceau du football, qui reste attaché, quant à elle, à l'amateurisme dans le football, comme dans les autres sports. La fédération sera présidée par Robert Guérin jusqu'en 1906. Sortie exsangue de la Grande Guerre, elle sera redressée par Jules Rimet, qui en assumera la présidence de 1921 à 1954. Et enfin, pour terminer, le 21 mai 1927, Lindbergh traverse l'Atlantique. L'Américain Charles Lindbergh, âgé de 25 ans à l'époque, réussit la première traversée en avion sans étape de l'Atlantique Nord, quelques jours après la tentative malheureuse de Nungesser et Colley dans l'autre sens. C'est tout pour les événements d'aujourd'hui. Et alors, Simon, peux-tu nous parler des naissances et des décès ?
Bah, y a surtout en fait une naissance importante aujourd'hui, c'est celle de Andrei Sakharov, qui est né un 21 mai 1921 à Moscou, en Russie. Rapidement, qui il est, hein, Sakharov, c'était un grand scientifique à l'époque, puisqu'il avait travaillé notamment dans les années 48-50, on va dire, sur l'arme nucléaire soviétique. Et puis en 1953, ça avait amené la première bombe H russe qui était donc au point, réalisée, et il avait joué un rôle décisif dans le processus de la recherche. Et évidemment, se rendant compte du danger que représentait cette bombe, et ben il a un petit peu bataillé face au régime politique pour expliquer que c'était trop dangereux. Et c'est dans les années 66, même pour être précis, qu'il a commencé à contester politiquement tout ça. C'est un petit peu d'ailleurs l'Oppenheimer, on pourrait le comparer un peu comme ça, mais c'est la version Oppenheimer russe, puisque on le sait, Oppenheimer, c'était un peu la version américaine. Pareil, il avait été l'inventeur en gros de la bombe nucléaire, si je dis pas de bêtises, et qu'il s'était aussi lui rendu compte de ce que ça pouvait en fait faire comme dégâts. Donc le destin des deux sont très intéressants, mais Sakharov, c'est la version russe, et qui est né, donc, je le disais, le 21 mai 1921.
Eh bien, merci beaucoup. C'est la seule naissance.
C'est la seule naissance,
et
oui, du jour.
Il y a des décès.
Il n'y a pas de décès particulièrement. Oui, tout le monde s'en fout. Voilà, évidemment, il y a des décès, mais peut-être moins connus, en tout cas de personnalités connues. Puisqu'évidemment, quand c'est 21 mai, on le déplore, il y a forcément des personnes qui décèdent, comme dans tout le monde entier, puisque c'est toutes les 5 secondes, je crois, donc je ne sais plus. Enfin, la statistique est terrible. Mais par contre, il y a évidemment, j'imagine, une fête du jour ce 21 mai. Qui fêtons-nous
Eh bien, nous fêtons les Constantins, en référence à l'empereur du même nom. Et donc, voilà, on n'a pas plus de précision que ça aujourd'hui. On sait que, voilà, il s'appelle Constantin et que, de mémoire, il a ramené tout seul comme un grand la croix du Christ à Constantinople, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre qui s'appelait Constantin. Enfin bon, bref, c'était un empereur romain.
Si seulement j'avais fait des études d'histoire pour vous aider.
Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ce pan-là de l'Empire romain, en tout cas. On a bien vu le début, mais le milieu, c'est vrai que peut-être qu'on n'était pas très concentrés.
C'est peut-être ça aussi.
Je ne veux pas jeter l'eau chaude sur le bébé au fil à couper de beurre, mais peut-être que c'est ça. D'ailleurs, tu parlais d'Oppenheimer tout à l'heure, très bon film,
oui.
En passant.
Évidemment, à regarder. Mais je me demandais, tiens, s'il y avait eu un film sur Sakharov, il doit y en avoir, mais parce que son destin, il est assez fou. Lui aussi, il s'est fait un peu... Même à la fin, ça lui a valu carrément on a parlé de sa naissance, mais pas de sa mort. Ça lui a valu d'être attrapé par le KGB notamment, et qui, enfin voilà, ça s'est pas du tout bien passé pour lui dans les années 80. Donc, et il a eu un prix Nobel. J'en ai pas parlé, mais il a eu le prix Nobel de la paix en 75. Voilà. Donc c'est un sacré personnage et qui mériterait aussi, pourquoi pas, un film. Même si, bon, évidemment, la Russie est plus trop en vogue, j'imagine bien, en ce moment, mais ça pourrait être intéressant d'en faire un sur lui.
Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. L'idée est lancée. Après, c'est...
S'il y a un réalisateur qui nous écoute, à bon entendeur. Mais je vais regarder, il y a peut-être un film qui existe.
Merci beaucoup, Simon, pour ce journal historique. Tout de suite, petite pause musicale, et ensuite, on reviendra sur ce fameux traité de Troyes. Qu'est-ce qui s'y passe ? La France a peur, on peut dire. La France a très peur. Et nous allons avoir peur tous ensemble après Mein High Club, hommage, une musique que j'aime particulièrement et que je vous fais découvrir ce soir.
La Redoute, vivre le beau.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur la percée de l'histoire avec cette pub impromptue qui n'est pas de notre fait ni de notre ressort. C'est pas nous, c'est YouTube. Parce que, vous savez, dans cette émission, nous choisissons avec une qualité d'expert toutes les musiques qui sont diffusées ici.
Et oui.
Mais par manque de temps, il est vrai, nous ne les téléchargeons pas avant de venir.
Et surtout par souci de légalité, bien sûr.
Bien sûr.
Car il n'est pas possible de les télécharger légalement.
Au grand jamais.
En tout cas, sans, il faudrait l'accord de bien, des ayants droit, évidemment, ce que nous n'avons pas.
Au grand jamais, je ne ferai quelque chose d'illégal. Je ne l'en ai jamais fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. En tout cas, c'était Mein High Club, hommage, dans son album Skip Tracking. Si vous jamais vous voulez écouter l'album en entier, bien évidemment. Ce que je vous conseille fort, parce que je pense qu'il est très bien.
Comme ça, c'est dit.
Ça, c'est dit, c'est fait. Maintenant, passons à des choses moins réjouissantes qui auraient pu tout chambouler, tout basculer.
Mais non.
Mais si. Et c'est donc le traité de Troyes. Alors, qu'est quoi qu'est-ce ? Traité de Troyes signé le 21 mai 1420, nous le disions pendant le journal historique, entre deux personnes, Henri V d'Angleterre et Charles VI de France. Et alors, ce traité, il est catastrophique.
Ah oui.
Là j'emploie le terme catastrophique pour la couronne de France. Puisque à l'issue de la bataille d'Azincourt, qui s'est déroulée 5 ans plus tôt, les Anglais nous ont mis, mais alors, disons-le honnêtement, une branlée. Mais une branlée, mon ah gars. Oui,
on n'a jamais mot est lâché.
Ah non, mais alors là, mais c'est un truc incroyable. Tellement incroyable que ce traité stipule que le dauphin, donc le fils de Charles VI, est déshérité de la couronne de France. Et que cette couronne reviendra hypothétiquement à le fils d'Henri V. Parce que celui-ci s'est arrangé, pendant le traité, de se marier avec une des filles du roi de France. Ce qui fait donc que la progéniture de Henri V deviendra le petit-fils de Charles VI. Mmh. Et donc, en même temps, il héritera à la mort de son père Henri V et de la couronne d'Angleterre, ce qui est normal, mais aussi de la couronne de France.
Tant qu'à faire.
Puisque tous les héritiers mâles, j'ai envie de dire, dont le dauphin, donc, sont déshérités totalement. Donc, autant
la bonne idée.
La bonne idée. Bah, pour Henri V, c'est génial.
Ah bah là, attendez,
vous vous rendez compte.
Pour le prix d'une.
Bien évidemment, ce traité est avant tout, rendons à César ce qui est à César, est avant tout l'œuvre du duc Philippe III de Bourgogne, dit Philippe le Bon. Parce que les Bourguignons et le royaume de France, ce n'est pas des copains à cette époque-là. C'est plutôt, les Bourguignons sont plutôt du côté anglais. Alors, quand on parle de la Bourgogne, il ne faut pas voir la petite région, ouais, j'ai envie de dire,
hein,
la petite
aujourd'hui.
Région d'aujourd'hui. Non, non. Mm. Ça comprend beaucoup de territoires, notamment au nord de la France, jusqu'en Belgique, et ça remonte un petit peu plus loin vers les Pays-Bas actuels. Donc, vous voyez, c'est un grand morceau qui fait tout simplement la frontière du quart nord-est de la France. Et les Bourguignons, les ducs bourguignons ont toujours voulu raccrocher leur territoire qui était assez parsemé et dans le royaume de France et dans le Saint-Empire romain germanique. Et ils ont toujours eu à cœur d'avoir une continuité territoriale, mais ils n'auront pas l'occasion de le faire. Non, ils n'auront pas l'occasion de le faire parce que changement de dynastie, tout ça, machin, ça passera chez les Espagnols, puis chez les Autrichiens et finalement les Bourguignons, on n'en entendra plus jamais parler, de toute manière. Mais revenons à nos moutons en 1420, et les Bourguignons sont alliés avec l'Angleterre, ce qui fait que le royaume de France se retrouve finalement un peu entre le marteau et l'enclume. Azincourt nous met donc une branlée monumentale, et là, donc, ce fameux traité. Alors ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incidences. Le dauphin Charles, qui deviendra par la suite Charles VII, est contraint de fuir le nord de la France, hein, puisque tout le nord de la France, tout le nord de la Loire, pour être précis, est contrôlé soit par les Anglais, soit par les Bourguignons.
Donc autant dire, pas beaucoup d'alliés.
Autant dire que le dauphin s'en va fissa, histoire de ne pas se faire, je ne sais pas, suicider d'un coup de couteau dans le dos en pleine nuit, enfin bon, un truc comme
mince.
Ça, tu vois. Tu sais, ça fait un peu comme le sketch des Inconnus, le pauvre homme, le pauvre, qu'est-ce que c'est quoi ? Ah oui, le pauvre homme dormait tranquillement à côté de sa tronçonneuse qui a décidé de marcher tout seul et voulant s'enfuir, s'est jeté du haut de la fenêtre dans un bloc de béton frais qu'on a retrouvé au large du Vieux-Port. La police n'exclut pas cependant la thèse du suicide. Donc voilà, ça aurait été un peu ça, tu vois. Donc Charles, précautionneux pour sa propre vie, s'en va à Bourges. Et donc, comme il n'est plus vraiment considéré comme dauphin finalement et héritier du roi de France, il va y avoir une expression qui va émerger, on va l'appeler le roi de Bourges. Donc, puisque vous savez que les rois de France sont d'abord couronnés, à la mort de leur père, et ensuite sacré à Reims. ce qui est l'étape la plus importante, en vérité.
Oui, parce que c'est vraiment, ça vous donne tous les droits.
Voilà, c'est un peu là où on vous consacre, hein, vraiment, comme roi. Mais là, Reims, c'est chez les Bourguignons. Donc, autant vous dire qu'il ne faut pas aller là-bas. C'est ça craint idée. Un peu. Ce n'est pas une très bonne idée, c'est vrai. Cependant, tout n'est pas perdu non plus, puisque les comtes et ducs du sud de la France restent tout de même fidèles au dauphin. Voilà, donc ce n'est pas la France qui s'écroule, ce qui aurait pu arriver. Hein. Tous les barons et chevaliers auraient pu prêter allégeance au roi d'Angleterre, ce qui n'a pas été le cas, donc. Seule la partie de Bordeaux et jusqu'à Mont-de-Marsan, maintenant, finalement, est encore aux mains du roi d'Angleterre, et ça depuis bien longtemps. Hein. Les ducs d'Aquitaine, ont toujours été fidèles, si ce n'est carrément le roi d'Angleterre qui avait ce titre. Donc, c'est pour vous dire. Donc, le 1er décembre 1420, le 1er décembre, Henri V, donc le roi d'Angleterre, fait une entrée triomphale à Paris, qui est alors prise par les Anglais, en compagnie du roi Charles VI, quelle humiliation, et du duc Philippe le Bon. Alors, les trois, le Bon, la Brute et le Truand.
Ouais, c'est clair, c'est le trio gagnant.
L'université de Paris, avec à sa tête le recteur Pierre Cochon. Alors, pas cochon comme l'animal, hein, c'est au lieu du O, on a AU. Et les états généraux de Languedoc, c'est-à-dire tout le nord de la France, apportent soutien au roi d'Angleterre en enregistrant le traité de Troyes. Parce qu'une fois qu'il a été signé par le roi de France, il doit être approuvé par ce qu'on appelle les états. Les états généraux, bon, je vous la fais courte, c'est des parlements qui sont un peu disséminés dans le royaume de France. Et la partie nord, donc, prête allégeance à ce roi. Et là, heureusement pour nous, le calendrier va jouer en notre faveur. Puisque le 31 août 1422, Henri V meurt.
Oh mince.
Peu avant Charles VI, le 21 octobre. Et donc, le fils d'Henri V, parce qu'il a eu un fils entre-temps, eh bien, il est seulement âgé de 10 mois. Alors, il faut savoir que quand vous êtes un roi, et quand vous êtes jeune, genre 10 mois, c'est super bon pour les prétendants. Parce que les prétendants, ils vont essayer de contester l'autorité
de
du roi.
De dire que vous ne pouvez pas gouverner.
Donc ben voilà. Ouais. Et puis en plus, donc 10 mois, tu vas...
Tu peux pas te défendre, quoi.
Voilà, exactement.
À part faire...
Voilà. Mais mine de rien, il est quand même proclamé roi de France et d'Angleterre, selon le traité de Troyes, bien entendu. Il devient Henri VI d'Angleterre, en Angleterre donc, et donc Henri II de France, hypothétiquement. Le duc de Bedford assure dès lors la régence en France et met le siège devant Orléans, qui est encore la dernière place forte au nord de la Loire, enfin sur la Loire même, qui résiste encore et toujours aux Anglais. Et donc, Orléans reste encore fidèle à Charles VII le 12 octobre 1428. Et heureusement, par la suite, les victoires du parti de Charles VII, avec l'aide notamment de Jeanne d'Arc, que ce soit la bataille de Patay ou la chevauchée vers Reims, qui va pouvoir permettre à Charles VII d'être sacré roi, donc, et d'être officiellement reconnu, finalement, malgré le traité de Troyes. Et c'est là où ça va se faire, c'est grâce à la jeunesse d'Henri VI et les victoires de Charles VII en France qui va permettre progressivement à la France de revenir sur le devant de la scène. Et ça aurait pu très, 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 très mal finir, évidemment. Et aussi, les juristes français qui étaient encore fidèles au roi de France, se sont triturés les méninges pour essayer de trouver la parade juridique, à savoir, non, le roi d'Angleterre ne peut pas monter sur le trône. Et ils en ont trouvé plusieurs, notamment le fait que le roi de France, dans les textes, ça veut beaucoup dire, les textes, parce qu'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de constitution de royaume de France. Donc en fait...
Dans les us et coutumes.
Voilà, c'est plus ça, quoi. C'est les us et coutumes du royaume de France. Eh bien, on a retrouvé des petites lignes comme quoi, finalement, il y a une distinction entre être roi et gouverner le roi de France, enfin, le royaume de France. C'est-à-dire que le royaume de France n'est pas la propriété du roi, si vous voulez. Il n'y a qu'une seule partie du royaume de France qui est propriété du roi, on appelle le domaine royal. Mmh. Et ça, ce sont les terres du roi à lui. Et il a deux règles, ne pas le séparer et ne pas déshériter ses héritiers. Et donc, c'est là que ça va jouer. Ils vont dire, ces juristes, « Eh ben non, vous ne pouvez pas déshériter, enfin, le traité est caduque parce que Charles VI, en faisant ça, sépare le domaine royal, ce qui est interdit. Le domaine doit soit, au pire, rester comme il était, ou au mieux, bah, gagner quelques terrains sur, sur les voisins. » Et aussi, chose très importante, les royautés, la couronne d'Angleterre ne fait pas trop de distinction entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que bah, si jamais le roi d'Angleterre n'a pas d'héritier mâle, c'est pas grave, on le donne à la fille. Ce n'est pas le cas en France.
Oh non.
Non, 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 non. On appelle ça la primogénité mâle. C'est-à-dire que le garçon a toujours prévaut sur la fille. Et carrément, la fille est totalement exclue. Et même, d'ailleurs, on a une progénité, sur l'aîné de la famille. C'est toujours l'aîné qui reçoit. Puis ensuite, le cadet et tout ça. Enfin bon, après, ça, c'est une hiérarchie, vous comprenez. Et c'est grâce à ces petites bisbilles-là que... ces petits micmacs. Et notamment le fait que le roi d'Angleterre était très jeune, 10 mois, rendez-vous compte. Et aussi, beaucoup, surtout, que Charles VI était considéré comme fou. Mm. Et donc, les juristes se sont dit, mais monsieur, il était totalement fou.
Il est zinzin, le monsieur, là.
Il ne pouvait pas être dans ses pleines possessions, ses pleines capacités. Donc, finalement, ce traité, on ne le reconnaît pas trop.
Et devinez où est-ce qu'il a eu sa première crise de folie?
Mais tu vas nous le dire.
Bingo. C'est chez nous, au Mans. Oui. En tout cas, en Sarthe, parce que ce n'est pas totalement au Mans, c'est dans l'ancienne forêt du Mans, qui était, je crois, dans les environs de Parigné-le-Polin. Enfin, c'est même plus large que ça, parce que ça touchait plein d'autres communes, et que ce monsieur a eu sa première crise de folie grâce notamment à la fatigue et au soleil qui lui ont fait complètement péter un câble, puisqu'il se mettait à courir derrière ses soldats pour essayer de les tuer. Et suite à ça, il va en avoir plein d'autres, avec par exemple un balai dansant qui a failli, où tout le monde a failli être cramé, et puis je ne sais plus quoi d'autre, enfin bref. Et
oui, voilà. Il se prenait pour du verre, je crois, il ne fallait pas trop le toucher, enfin bon. Donc voilà, des histoires comme ça, et c'est grâce à ça, ces petites choses-là, qui ont permis, un, de discréditer la parole du roi d'Angleterre, et ensuite de rallier des soutiens au roi de France, donc plutôt le dauphin Charles VII. Quoi. Ce qui n'était pas gagné, en tout cas. Et donc voilà.
La seule chose qui m'attriste, c'est que j'aurais pu peut-être enfin savoir parler anglais, mais bon. C'est peut-être pas si mal non plus.
Oui, non, tu sais.
Je ne vais pas m'emporter si mal.
Voilà, c'est vrai. Et alors, est-ce que tu sais, je l'ai appris en faisant cette chronique, est-ce que tu sais quand s'arrête officiellement la guerre de Cent Ans?
C'est pas 1457, mais ça c'est le... Non, c'est les débuts.
1400... Ah ben non, là non, on est à la fin.
C'est pas 1453 ou quelque chose comme
alors,
ça?
Alors, 1453, tu as raison. Ouais. C'est d'abord la bataille de Castillon et le siège de Bordeaux qui fait que la partie donc, de Bordeaux, que je vous disais tout à l'heure, aux mains des Anglais, est rattachée au Royaume de France. Mmh. Et là, ce sont les dernières campagnes militaires qui sont faites. Mais le vrai traité, qui vraiment instigue, entérine, j'ai envie de dire, la guerre de Cent Ans...
C'est 2002.
Eh bien non, c'est le traité de Picquigny. En 1475.
Ah ouais, c'est quand même bien plus tard.
Il faudra attendre 1475 quand même. Et alors, figure-toi, et ça sera la dernière chose de cette chronique, Henri VI, figurez-vous, souvenons-nous, bénéficiaire du traité de Troyes au départ, parce que lui, on ne lui a pas demandé son avis, le pauvre petit père.
Il est arrivé direct, bim.
Et bien, figure-toi qu'il se retrouvera 40 ans plus tard dans la même position que Charles VI. C'est-à-dire qu'il va être contraint de signer ce qu'on appelle l'acte d'accord, de déshériter son propre fils de la couronne d'Angleterre en 1460, durant la guerre des Deux Roses, qui voit l'affrontement entre deux maisons en Angleterre, la maison de Lancaster et la maison de York. Et donc, Henri VI, eh bien, il va devoir déshériter son fils pour le mec d'en face.
Il a tout perdu.
Ben oui, c'est vrai que bon, ben, on ne peut pas être bon à tous les coups, quoi.
Ben merci en tout cas, Thomas, pour cet éclairage sur, sur ce traité de Troie.
Ben oui.
Que j'avais oublié et que j'espère, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez peut-être découvert, ou en tout cas, voilà, vous saurez.
Ou redécouvert.
Ou redécouvert, et vous savez maintenant même que nous avons failli être anglais.
Oui, voilà.
Quelle horreur.
On aurait failli manger du pudding avec du thé et avoir une bouffe à femme. Bref.
Ouais, les Anglais, c'est vrai que c'est pas.
Hein. Enfin, bref.
C'est un autre sujet.
Voilà, voilà, exactement. On se retrouve après une pause musicale avec la chronique de Simon. Ouais. Je laisse toujours un petit mystère sur qu'est-ce qu'on va donc oser. En attendant, on va s'écouter Between the Buttons, fait par French 79. On aime bien, c'est sympa. Et écoutez, ben, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Electro sur La Percée de l'Histoire sur Radio Alpa. Thank you.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Vous êtes toujours sur La percée d'histoire sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et nous venons de nous écouter Français 79 entre les boutons. Un titre tout à fait excellent que je recommande vivement. C'est super. Et puis d'ailleurs, même cet artiste en général, cette musique fait partie de l'album « Voilà, je cherchais Olympique », voilà, sorti en 2016. Et maintenant, nous passons tout de suite directement à la chronique de Simon. Simon, que vas-tu nous causer ce soir ?
De quoi qu'on cause ? Eh bien, du Belém, le fameux bateau dont vous avez peut-être tous et toutes entendu parler, puisqu'il fait l'actualité, notamment avec les Jeux Olympiques. Et je vais revenir un petit peu sur son histoire. Nous sommes le 16 juin 1896. Les chantiers du Bigeon de Chantenay-sur-Loire sont en cours depuis 6 mois. Et ça y est, notre bateau à trois mâts de 50,96 mètres de longueur, avec la coque tout en acier, voit enfin le jour. Monsieur Fernand Crouan, qui est l'armateur du bateau, l'utilise immédiatement pour aller au Brésil, vers le port de Belém, au hasard. Évidemment, c'est là dont il tire son nom.
Truc de dingue.
C'est un bateau qui peut porter jusqu'à 675 tonnes. Ça tombe bien, notre Belém rapporte du Brésil des fèves et du cacao. Et puis dans les Antilles, il rapporte notamment du rhum et du sucre. Et au total, ce sont presque 33 campagnes de transatlantique avec 13 armateurs différents. Et pendant ces 33 campagnes, eh bien, on a failli ne jamais revoir notre Belém. Quand même, hein, il a failli complètement être détruit pour plein de raisons. Il y a eu notamment, par exemple, un incendie pendant son tout premier voyage. Pas de bol. Il y a eu un abordage sur la rade de Saint-Nazaire en 1898. Et puis, il y a même eu une éruption volcanique de la montagne Pelée en Martinique en 1902. Ah. Et ça a failli complètement tuer, détruire le bateau. Donc voilà, tout un tas de péripéties.
Parce qu'il était en Martinique à ce moment-là.
Eh oui, exactement. Pas de bol, vraiment concours de circonstances. Au même moment, éruption, le bateau a vraiment failli y passer. Heureusement non. Bon, par la suite, il y a tout un tas de propriétaires jusqu'à la fin des années 1970. Tout le monde a oublié le bateau. Et puis, finalement, on le retrouve à Venise. C'est l'association pour le sauvetage et la conservation des anciens navires français qui a lancé l'appel en disant « les gars, il y a le bateau, quoi. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on le rachète ?» Évidemment, ça fait pas mal de bruit à l'époque. La Caisse d'épargne et la Marine nationale se sont alliés pour récupérer le Belém.
Carrément.
Et après une bonne grosse restauration, parce qu'il était vraiment dans un état compliqué, le voilà de retour dans les années 80 en France. Alors aujourd'hui, il est surtout utilisé pour des stages d'initiation, de découverte. C'est même un bateau d'entraînement pour la marine. Il a même été classé monument historique en 84. Et puis cette année, vous l'avez toutes et tous vu, il a été choisi pour transporter la flamme olympique d'Athènes à Marseille pour les Jeux Olympiques de Paris, comme on a pu le voir notamment le 8 mai.
Mais finalement, pourquoi on a choisi ce bateau et pas un autre ?
C'est un peu la question que tout le monde se pose. Pourquoi lui ? Pourquoi pas l'Hermione ? C'est vrai. Alors l'Hermione, parce qu'on imagine bien qu'il doit aller un petit peu dans le mal en ce moment, beaucoup de réparations.
Ouais.
Mais le Belém, les explications qui ont été mises en avant, c'est d'abord que c'est le bateau préféré des francophones selon le classement de 2023. C'est ce fameux classement mené par Stéphane Bern, le monument préféré des Français.
Ah là, c'est pas vrai.
Voilà, le bateau avait remporté... en tout cas, avait été bateau préféré en 2023. C'est aussi, selon les termes du CIO, parce que CIO, c'est pas la même chose. C'est le bateau de, je cite, « tous les Français », puisqu'il navigue un peu partout et accueille tous ceux qui veulent y naviguer ou faire des stages. Donc c'est vrai qu'il va souvent un peu partout en France. Et puis, c'est un bateau qui est sobre énergétiquement, puisque, on le rappelle, c'est l'image que veut se donner ces Jeux Olympiques, donc c'est toujours important justement de montrer une bonne image au monde entier. Donc voilà, c'est un peu les trois arguments qui ont été mis en avant pour ce bateau. Dans tous les cas, on l'a bien vu, le Belém a été accueilli plutôt triomphalement le 8 mai à Marseille et il a déjà repris la mer en direction de l'Espagne, où il restera jusqu'au 3 juin avant d'aller au Portugal et puis de retourner quand même en France pour des réparations, voilà, parce qu'évidemment
les éternelles,
les éternelles réparations qui ont toujours besoin de réparations, et surtout pour de nouvelles aventures, le Belém dont on n'a pas fini d'entendre parler.
Eh bien, j'espère bien, oui. Eh bien, merci beaucoup Simon pour cette chronique sur le Belém. Même si j'avoue que aller chercher la flamme olympique avec le Charles de Gaulle aurait été plus badass. Mais après,
pas sûr que ça passe dans le port de Marseille.
C'est vrai que tout de suite on dirait oui. Pourquoi ça aurait fait jaser.
Voilà. T'imagines Juge dans le port de Marseille?
Ah non, ne m'en parle pas.
Non, je vais rien dire. Mais... ah, ouais.
On en parle.
Dans le Charles de Gaulle plutôt, je voulais dire.
On en parle pendant cette pause musicale, ouais, que tu nous as recommandée, Simon, Super Trooper de ABBA, bien sûr, très
oui,
connu.
Oui, un grand classique.
Très connu, mais pourtant, on ne s'en lasse pas.
C'est
on
vrai.
On ne s'en lasse pas.
Je retombe un peu dans une vibe ABBA, là, en ce moment.
Ah ouais, ouais. Très bien, Fernando, tout ça.
Non,
c'est un titre de ABBA.
Ouais, mais c'est vraiment pas celui que j'écoute. Mais,
d'accord.
Mais,
c'est lesquels, alors?
Bah, écoutez, je vais vous dire ça. C'est dans mes titres laqués.
J'ai alors, mis, attendez.
Super Trooper, Dancing Queen, Voulez-vous, Chiquita.
Voulez-vous
ouais, Voulez-vous. Ah, Chiquita aussi. Non, Chiquitita, pardon, d'ailleurs.
Ah.
Et Lay All You or Love on Me. Enfin, bref. Un peu.
Ouais, vieille machin, demi, de moi. Ouais.
ABBA, grand classique, mais un groupe qui fonctionne toujours très 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 bien, y compris sur les plateformes d'écoute. Si je vous tape sur Spotify, on est à 32 millions d'auditeurs par mois. Voilà.
Tout à fait.
On juste fait... sur Spotify.
Eh bien, c'est quand même pas mal. On fêtait, il me semble, les 40 ans de leur séparation l'année dernière, en 2023. Ah. Ils s'étaient séparés en 83, il me semble.
Et avec des retours souvent d'ailleurs en virtuel. Avec
oui,
off,
alors ça. Bref. Bah, vaut mieux que ce soit en virtuel parce que bah, quand tu vois la tronche qu'ils ont aujourd'hui,
mais
ah là là, les
en tout cas, leur musique est intemporelle finalement.
Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. On s'écoute immédiatement Super Trooper de ABBA. C'est tout de suite, c'est maintenant. Somewhere in the crowd there.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour dans le dernier carton de la percée de l'histoire ce soir, où nous nous sommes écoutés Super Trooper, bien sûr, de ABBA. Un groupe fameux qui est de quelle nationalité ?
Suédoise.
Je crois que c'est ça, bravo.
Attends, tu me fous le doute. Si, c'est ça, non ?
Oui, c'est ça. Ils étaient suédois, ces petits messieurs dames.
Ah, c'est bon.
Et pourtant, on ne dirait pas parce qu'ils chantent très bien.
Eurovision, d'ailleurs.
En 74, oui.
Mais ce qui est fort, c'est que...
Avec Waterloo.
Mais les Suédois, à l'Eurovision, c'est des monstres. Ils sont trop forts parce que là, la dernière en date, c'est Laurine. Laurine qui a fait la chanson Tattoo. Je crois, hein. Qui avait fait l'Eurovision.
Peut-être.
Et qui, ça, c'est une musique qui cartonne.
Mais c'est qui a gagné là, cette année ?
C'est Nemo.
Non mais il est de quelle nationalité ?
Suisse ?
Ouais. Nemo ?
Ouais, j'ai écouté, c'est...
Mais bon. Je croyais que c'était un poisson dans la barrière de corail.
C'est aussi un poisson, mais c'est... Non, c'est pas exceptionnel.
Je comprends plus rien.
Je peux pas vous faire écouter malheureusement Laurine Tattoo là, mais vous taperez, vous verrez, et c'est très connu.
Tattoo comme un tatou.
Ouais, comme un tatou. Et c'est une chanson qui marche pas mal, qui fonctionne. Mais Nemo, cette année, ouais, je pense que vous l'entendrez très peu à la radio parce que c'est une musique qui a gagné, hein, bravo, mais qui n'est pas forcément...
C'est déjà pas mal.
Voilà, mais qui n'est pas forcément exceptionnelle à écouter tous les jours, voilà.
Mm-hmm.
Mais par contre, point intéressant, c'est que c'est en Suisse, puisque la Suisse a donc gagné, ça veut dire que c'est un retour au bercail pour l'Eurovision, puisque l'Eurovision avait vu le jour en Suisse.
C'est
voilà,
pas vrai.
Son siège social, c'est en Suisse. Je sais plus en quelle année, je sais plus si c'est pas... 1900, j'ai 1901 en tête, mais ça doit pas du tout être ça. Ça doit être bien plus tard.
Oui, parce que 1901, c'est tôt.
Non, c'est beaucoup trop tôt. C'est 1900, je vous le dis tout de suite.
Pas après la Seconde Guerre mondiale ?
56.
Ouais.
Donc j'y suis pas du tout. Mais voilà, et ça a été vu en Suisse. Voilà.
Eh bien, très bien. Bah, merci. Merci beaucoup. Je ne savais pas. En tout cas, bon, bah, retour au bercail. Bravo. Bravo à Nemo.
Ouais.
L'agenda sorti de cette semaine, de ces deux semaines, trois semaines qui arrivent. Est-ce que Simon, tu as des recommandations pour nous ?
J'en ai une parce qu'elle est toujours, ça fait toujours plaisir de le rappeler, et surtout parce que il y a eu un petit changement, même si ça a été, ça a pas été très ébruité. C'est sur l'exposition au Carré Plantagenêt, la mécanique d'une ville, les faubourgs du Mans. Vous en avez déjà parlé. On le rappelle, hein, ça avait vu le jour le 21 octobre 2023. Cette exposition déjà.
Quand même.
Donc ça passe très vite. Ça met un petit peu en avant en fait tous les on va dire tout plein de quartiers, que ce soit Pontlieu, Sainte-Croix, Saint-Pavin-des-Champs ou Saint-Georges-du-Plain. Enfin bref, tout plein de quartiers au Mans qui ont évolué, hein, évidemment. Et donc avec un petit peu des photos qui retracent ce à quoi ça ressemblait avant, toute la métamorphose qu'ils ont pu connaître. On y retrouve par exemple la piscine des Sablons, non, de Pontlieu, je crois. Je dis une bêtise. Mais bref, on retrouve pas mal de choses. Sur l'évolution des quartiers du Mans. Et voilà, je vous le disais, petite nouveauté, c'est qu'en fait, ça a été prolongé jusqu'au 3 novembre 2024, puisque ça devait s'arrêter normalement au mois de mai. Donc voilà, vous avez encore largement le temps pour y aller, et ça vaut vraiment le coup, c'est une super exposition. Et en plus, il y a souvent des visites qui sont organisées les week-ends. mais sinon, qui sont payantes, mais sinon c'est gratuit, vous pouvez y aller n'importe quand, à n'importe quelle heure, enfin sauf évidemment dans la limite de l'ouverture du musée, c'est au carré Plantagenêt au Mans.
Mais oui, mais moi Simon, je n'ai pas de tarif préférentiel pour aller à l'université, au musée, pardon.
Eh bien oui, mais c'est gratuit.
Gratuit ?
Gratuit, même entièrement pour moi. Gratuit. Et gratuit, d'ailleurs, le carré Plantagenêt, mais tout comme le musée TC aussi, qui lui aussi est gratuit. Bref, tous les musées du Mans sont gratuits.
Waouh ! Donc, foncez voir cette exposition, très bien d'ailleurs, et comme tu le disais, qui retrace très bien l'histoire des quartiers du Mans, et notamment les quartiers sud qui sont le plus documentés, puisque évidemment plus jeunes. Donc forcément, plan d'architecte, photo, c'est super, c'est génial. Allez-y.
Et c'était bien l'ancienne piscine des Sablons, hein, voilà, je le retiens.
D'accord, et ben voilà, ben très bien.
C'était bien ça.
La piscine des Sablons, donc qu'on embrasse.
Non, mais enfin, franchement, c'est super parce qu'il y a plein de vieilles photos.
Oui, c'est vrai.
Voilà, si vous voulez y aller avec vos grands-parents ou parents qui ont peut-être connu certains quartiers, etc., c'est vraiment l'occasion parce que ça remet pas mal en lumière des choses qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, évidemment, puisque ça évolue, les quartiers.
Oui, bah, c'est très cool. Tout à fait.
C'est très sympa à voir.
Tu as tout à fait raison. Mais moi, écoutez, je n'ai pas vraiment de grandes recommandations à faire.
Ah oui, toi tu fais rien dans ton week-end, quoi.
Non, moi écoutez...
Toi, c'est chez toi, série ou film, et puis...
Je regarde la pluie.
Ah oui, bah alors là t'as pas fini. Hein.
Je
t'as
regarde la pluie, même si m'a-t-on dit qu'au début du mois de juin, ça devrait aller mieux se passer.
Et puis fin juin, on dira ça arrivera au mois de juillet.
Voilà.
Et puis au juillet, on verra. Donc, pour le mois d'août.
Voilà, ces sources, t'inquiète pas, fais-moi confiance.
Crois-moi, t'inquiète.
En attendant, on va se quitter. Ça y est, c'est la fin, déjà.
C'est chaud.
Merci Simon d'être venu.
Avec plaisir, avec grand plaisir Thomas, merci à toi de m'avoir accueilli.
Quelle est l'actualité ces prochaines semaines là ? Toujours en stage ?
Oui, exactement, je suis toujours en stage dans une radio concurrente dont je ne dirai pas le nom.
On taira le nom ici.
On taira le nom, évidemment. Mais non, ouais, très très cool, ça se passe super bien, mes collègues, on va dire ça comme ça. Mais
ah bah, vrai, ce sont des collègues.
Ouais, ouais. Ils sont très sympas et j'ai pu faire plein de trucs. Là, cool. Tout récemment, c'était une émission, par exemple, en direct de Papéa sur 3 heures. C'était très, très cool. J'ai pu tester des attractions et en même temps parler au micro. Alors, autant vous dire que dans le bateau pirate, j'en menais pas large, mais c'était très cool, très sympa et ça me fait plein d'expériences en plus de celles que j'ai pu avoir à Radio Alpa et que je peux toujours avoir à Radio Alpa.
Voilà, tout à fait.
Quelle est la vôtre d'actualité, Thomas ?
Moi, écoutez, je vais terminer cette année tranquillement, quoi. Parce que, souvenez-vous, avec émotion, j'ai passé le concours du CAPES, encore une fois. Le concours du CAPES, pour devenir professeur donc, d'histoire-géographie. Et malheureusement, c'est un raté. C'est un raté malheureux. Donc, on retentera ça plus tard. Mais en attendant, on finit l'année tranquillement.
Jusqu'en juillet, non, juin, du coup, fin juin.
Juillet, 7 juillet, juillet ouais. fin de la période scolaire.
Bon courage.
On se retrouve tous les mardis, bien évidemment, toujours. Un petit post publié le mardi après-midi, hein, qui toujours vous dit s'il y a émission ou pas.
La percée de l'histoire sur Facebook, Instagram,
pas
Twitter, mais TikTok Twitter. Aussi, si vous voulez, il y a TikTok d'ailleurs. Je crois qu'on est dessus.
C'est vrai.
Il n'y a plus rien qui est posté dessus, mais il y a des vidéos, si vous voulez en voir, il y en a quelques-unes.
Très bon Reels de Simon qui au début de semaine, fin de semaine dernière, donc, puisque c'est là qu'on est au début, dis donc.
Ça fait toujours drôle de voir sa tronche postée sans même que je sois au courant, c'est marrant.
C'est vrai.
Mais oui, si.
Donc voilà, n'hésitez pas, c'était sur l'ancien musée de la reine Bérengère. Beaucoup de petites anecdotes super sympas et croustillantes à retrouver sur le Insta de la percée de l'histoire. En attendant, on se dit une très bonne semaine.
Et oui.
On se voit sans doute la semaine prochaine, il n'y a pas de raison. En tout cas, il n'y a rien de prévu pour l'instant, à part l'émission. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis au revoir.
Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libération !
Rentre ici, Jean Moulin !